la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Bonjour, cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, le premier mardi de chaque mois à 18h30, et elle est rediffusée le samedi suivant. Comme d'habitude, elle précède une conférence de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'auditorium, et elle traite, dans cette émission, on va traiter du sujet, mais en l'élargissant. Ce mois-ci, la conférence du 8 mars 2025 a pour titre « La faune sauvage en Beaujolais, le loup et le lynx ». Elle sera faite par Marc Benoît, naturaliste, et Florian Tanner, photographe. Mais aujourd'hui, pour élargir le sujet, nous allons en profiter pour faire un point plus précis sur le rôle des chasseurs. Et nous avons invité Thierry Calvi, qui est membre de la société de chasse du Péréon. Bonjour Thierry.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Bon, d'abord, on va commencer simple, par un petit rappel. Depuis la nuit des temps, on a une multitude de types de chasse. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de celles qui se pratiquent en Beaujolais ?
Ben, disons, dans le Beaujolais, on a surtout maintenant la chasse au chien courant, exactement. Donc, surtout sur le sanglier, le chevreuil. Et ensuite, on a une chasse au petit gibier qui se fait à titre individuel, on va dire, avec des chiens d'arrêt. Mais au niveau de la chasse au chevreuil, pendant la période estivale, on fait du tir sélectif pour éliminer un peu le gibier qui est malade ou pas en forme. Donc voilà. Mais surtout, on chasse le sanglier au chien courant.
Et il n'y a pas, alors je vais partir des chasses bizarres, mais il n'y a pas des chasses, je ne sais pas moi, à l'épervier ou à je ne sais quel, à l'arc ou...
À ma connaissance, au niveau de l'épervier, je ne pense pas, mais je pense qu'il peut y avoir un peu des chasseurs à l'arc.
Ah oui,
dans le Beaujolais. On peut trouver dans le Beaujolais des chasseurs à l'arc, je pense que c'est quand même une chasse qui se fait, et qui se fait en plus à l'approche, puisqu'il faut vraiment être silencieux et tout. Mais il y en a un peu, mais pas... Oui, ça doit être vraiment des passionnés, parce que, je veux dire, la chasse au chien courant est quand même une des premières chasses qu'on trouve dans le Beaujolais.
Chasse au chien courant, tu dis
Chien courant, c'est une chasse en motte, comme le sanglier. Ben, le matin, on fait les pieds pour voir où on peut cerner les sangliers. Donc, on vérifie grâce à un chien de pied, qu'on appelle, qui va trouver l'entrée. On va vérifier s'il y a une sortie. Et une fois qu'on a cerné tout ça, ben, on va prendre des postes et les chasseurs vont... relâcher les chiens sur les pieds d'entrée pour faire ce qu'on appelle nous un rapproché, c'est-à-dire qu'on va mettre un chien meneur qui va rapprocher au plus près du sanglier, et dès qu'il aura levé ce sanglier, on lâche les autres derrière, et c'est la chasse courante, qui n'a rien à voir avec une chasse de type à court qui se fait avec à cheval,
oui.
Mais qui se fait aussi pareil avec des chiens courants.
C'est pour ça que je voulais la précision, parce que ça pouvait... Voilà. Et puis c'est l'épuisement du
chien court. Le but du jeu, c'est on prend des postes, on essaye de prendre des postes clés, et on tire le gibier au passage, en faisant bien sûr la sélection d'éviter de tirer tout et n'importe quoi. Mm-hmm. Voilà.
Oui, donc moi qui suis bien aussi en la matière, je suppose que c'est organisé en groupe, en groupement. Et c'est des sociétés de chasse. Moi, j'ai entendu parler de ça. Les sociétés de chasse, ça consiste en quoi ?
Alors, sur le Péréon, nous sommes une chasse communale à statut privé. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une ACCA qui, elle, une ACCA, on va trouver donc des chasseurs et des propriétaires qui autorisent à chasser sur leur terrain.
Action communale de chasse agréée.
Voilà, action communale de chasse agréée, qui a été créée par par la loi Verdeuil en 64, qui n'a rien à voir avec la loi de 1901, c'est réservé pour la chasse.
Une association spécifique.
Spécifique, voilà, à fait. Donc nous, on est un groupement de chasseurs, et on loue les terres aux différents propriétaires, ou ils nous les prêtent pour... Voilà. On n'est pas sur une ACCA communale.
Oui, c'est pas, on ne se promène pas comme ça partout, comme on veut.
Non, bien sûr. On a des secteurs, on est limité par nos déplacements.
Il faut prévenir à chaque fois les propriétaires
Non, le propriétaire donne son aval pour l'année. Il sait qu'on est là, donc voilà. Après, bon, quand c'est le moment de la taille, comme dans le Beaujolais, on va éviter d'aller chasser dans le secteur où ils sont en train de tailler. On va chasser sur un autre secteur. Voilà. On essaye d'avoir une bonne entente avec les propriétaires.
Quelles sont les périodes de chasse et en fonction du type de gibier?
Alors, on va dire qu'on va commencer donc au mois de juin à l'approche à ce tir sélectif de chevreuil. Ensuite, la chasse dans le Beaujolais, je pense que c'est général à beaucoup de communes. Nous, sur le Péréon, on attaque à la fin des vendanges, donc on attaque début octobre. Voilà. Donc on chasse le samedi, le dimanche et le mercredi. Donc,
voilà. Et là, c'est tout gibier, c'est le lièvre, le lapin.
Non, 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 non. On a exactement là, c'est, on va chasser le sanglier, le chevreuil, si on en voit. Mais sinon, le lièvre, on a trois dimanches dans l'année pour essayer de garder un peu du cheptel. Et, voilà, et on a droit à, sur ces trois dimanches, deux lièvres par chasseur sur la saison.
Oui. Voilà, et donc, pour les sociétés, ça marche comme une association avec président
On a un bureau, hein, oui, président, oui. Trésorier, secrétaire.
Oui, mais comme pas comme l'association 1901, je veux dire.
Oui, c'est pas comme l'association, mais c'est pas... articulé pareil, mais on retrouve les mêmes personnages.
Ouais, d'accord.
On a bien le président, le trésorier.
Et vous êtes affilié à la fédération de chasse?
Ah oui, on est affilié à la fédération de département des Rhônes.
D'accord.
Et donc au-delà, il doit y avoir une fédération nationale.
Oui, après, nationale, et puis voilà.
D'accord, d'accord. Voilà. Et pour l'organisation, alors on va parler celle du Péréon, comme ça au moins on a un exemple concret. On a combien d'adhérents
Alors nous sommes à peu près 34 adhérents.
D'accord. Par rapport à d'autres, c'est.
C'est une bonne petite...
Oui, c'est à peu près ce qu'on retrouve à
l'heure. Oui, tout dépend des surfaces, le type de gibier, voilà. Mais en moyenne, oui, on est quand même dans la norme.
D'accord. Et il y a un profil d'adhérent ou il y a peu...
Non. Nous, on a, on va dire, on a des jeunes qui ont des chiens et qui mènent leurs chiens. Et après, on a ce qu'on appelle, nous, les retraités, qui sont là pour tenir les postes. On est là pour tenir les postes. Donc, voilà, on n'a pas... Non, c'est vrai qu'on a une petite jeune qui accompagne et qui fait les pieds avec son papa, donc qui a, je crois, 14 ans, si je ne dis pas de bêtises, 14 ou 15. Mais voilà, mais sinon, au niveau des jeunes, non, on n'a pas de nouveau permis. Voilà, donc c'est...
Et c'est onéreux, non? On ne se rend pas compte.
Alors, c'est le départ qui coûte cher.
C'est-à-dire?
Il faut acheter une arme.
Oui.
Tu achètes un fusil, c'est un fusil normal, 900 euros, une carabine, ça va de 1000 à 4000, hein, mais bon, voilà, après, bon, le permis, on va dire, on en a pour 300, après, t'as ta carte, 400, on va dire, allez, une saison, c'est 500 euros quand t'as tout ton matériel, mais pour nous, qui n'avons pas de chiens, ça va, mais après, les jeunes qui ont des chiens, ils ont en moyenne 4-5 chiens chacun, voire plus, la nourriture, toute l'année, le véto, tout ça, ça a un prix.
Et puis, il faut passer le permis?
Il faut passer le permis, donc tu as quand même deux possibilités. L'avantage, c'est que tu peux voir à l'âge de 15 ans, si ça te plaît, tu peux faire ce qu'on appelle la chasse accompagnée avec un chasseur. Donc, mais c'est soumis à une autorisation avec un minimum de formation par la fédération. Et ensuite, à 16 ans, tu vas passer le permis proprement dit, qui lui se fait sur deux épreuves. Une épreuve pratique et une épreuve théorique.
On en parlait tout à l'heure, oui. Mais là, pour aller à 15 ans, ça se fait où, le petit la préparation
Alors, je pense que la préparation doit se faire au niveau de la Fédération du Rhône.
Donc, il faut aller à Lyon.
À la Tour de Salvani.
Ah, à la Tour de Salvani.
Oui, je crois qu'ils sont allés, si je ne dis pas
d'accord.
De bêtises. Donc, voilà.
Et quels sont les examinateurs dans ce pays?
Eh bien, on a les gens de la Fédération et on a les gens de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui
pose des questions, d'accord.
Voilà.
Et alors, une société de chasse, elle chasse, mais il n'y a pas que ça comme activité,
non,
j'imagine.
Disons, tout à fait. Donc, on a déjà toute la saison de chasse. Et après, à l'issue de la saison de chasse, on va faire tout ce qui est entretien des chemins. On fait aussi on a des garinières, on essaye de remettre du lapin.
C'est quoi les...
Les garinières, c'est des ensembles où tu vas lâcher du lapin dedans. Et après, le lapin, quand il sera bien adapté, il va sortir et il va refaire son secteur après, plus tard. Parce que le lapin, on n'en a pas du tout et on essaye de mettre ça en place. Et donc, voilà.
Donc, il entretient ça, les chemins.
Voilà, l'entretien des chemins, un peu le relationnel avec tout le monde. Hein, et puis, voilà, c'est quand même... Et puis, surtout, on laisse se reposer un peu la nature. Parce qu'elle en a besoin, la pauvre.
Ouais. Et il y a des accords avec les... Parce qu'il y a les chemins, ils sont aussi gérés parfois par les chemins de grande randonnée. Il y a des gars qui refont des signes, des choses comme ça.
Alors ça, ils sont à part, eux. Ils sont... Oui. Voilà, nous, je veux dire, on fait les chemins, on coupe ce qui gêne, donc on entretient de façon que même les promeneurs puissent les utiliser. Hein. C'est quand même un peu... Voilà.
Oui, mais il n'y a pas de signes
spécifiques. Non, nous, on n'a pas de signes. Au pire, on peut avoir des numéros de poste. Oui. Tu vois, sur des arbres ou des trucs comme ça, pour quand on va prendre le poste, on dit bah, tu prends tel poste. Ou... Mmh. Voilà. Mais.
Il n'y a pas des panneaux accrochés. Quand il y a les périodes de chasse, il n'y a pas des panneaux accrochés. Attention, chasse
non.
en cours.
Ça, ou... Alors, ça, quand on. Alors là, c'est quand on est en action de chasse, oui, oui. on a l'obligation de mettre des panneaux sur les, à l'entrée des chemins pour dire attention, chasse en cours, tir à balle. Donc, on a des gros panneaux fournis par, qui ont été achetés à la fédération, des gros panneaux triangulaires mmh. qu'on met sur les chemins. Et après, nous, par rapport à où on se trouve, on va mettre encore un petit panneau. Attention, tire à balle, si des fois on a un chemin qui vient traverser le secteur.
Est-ce que vous avez beaucoup d'empêcheurs de tourner en rond, si j'ose dire, notamment les chasses du samedi ou du dimanche, parce que c'est, les promeneurs sont alors, friands de promenade, mais un peu moins de coups de fusil.
Oui, oui, oui. Non, mais je crois que c'est comme tout.
Ouais.
Il y en a de partout. Que ce soit des chasseurs, des promeneurs, mais il faut avoir une bonne ambiance et puis expliquer surtout aux gens ce qu'on fait.
Mmh. Ouais.
Parce que la personne, elle ne comprend pas pourquoi vous êtes là, comment ça s'est passé. Voilà, moi, ça m'est arrivé, j'étais au poste, une jeune fille est passée, j'ai passé pratiquement mon après-midi à lui expliquer la chasse qu'on faisait. Elle me dit, ah, mais c'est comme ça, je ne savais pas. Donc, ben voilà, c'est de la pédagogie, c'est comme tout.
Mmh.
On est là pour s'entendre, la nature est à tout le monde. Bon, ben voilà, quand vous croisez quelqu'un qui vient se balader, qui rentre dans la traque, ce qu'on appelle dans le secteur de chasse, on va lui dire attention, non, allez plutôt là-bas parce qu'il n'y a personne. On ne va pas aller. Voilà, donc les gens. Il y a des gens qui le comprennent, il y a des gens qui ne le comprennent pas, c'est le monde d'aujourd'hui.
Calade.
Ma radio.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Donc vous êtes toujours dans la chronique beaujolaise de l'Académie et nous recevons Thierry Calvi pour parler de la chasse et de la nature, puisque ça va être un peu l'objet de notre deuxième moment.
Alors vous nous avez parlé de la nécessité d'avoir un permis, mais on aimerait savoir effectivement quelles sont les questions qui sont posées, quelles sont les instructions qui sont données pour pouvoir passer ce permis et pour que le futur chasseur connaisse particulièrement toute la cinégétique et tout ça. Quoi.
Donc. Oui, donc on a donc quand vous avez à 16 ans, on va pouvoir présenter son permis, passer le permis. Donc on va se retrouver avec deux types d'épreuves, une épreuve pratique qui va être donc on a un parcours simulé de chasse. On va mettre le petit jeune en condition pour voir s'il fait pas d'erreur et à un moment il va tirer mais avec une cartouche à blanc histoire de s'habituer à ça. Ensuite, on a tout ce qui est sécurité, rangement d'une arme dans un véhicule. C'est quand même important, hein, que ça n'a jamais laissé son arme chargée, tout ça. Ensuite, on a une épreuve de tir, classique. Et après, on a une épreuve de tir sur cible mouvante. Donc, un sanglier qui passe et le jeune va essayer de tirer pour voir à sa brande, à tirer à la course dans toutes les conditions qui vont bien, avec la sécurité maximum. Et ensuite, on a une épreuve théorique sur laquelle on va poser, il va y avoir une dizaine de questions sur lesquelles on va leur parler donc, de la sécurité. Des lois, des types de gibier, des secteurs et tout. Et une fois qu'il a passé toutes ses épreuves, s'il les a réussies, il a son examen.
Il y a quelque chose autour de la nature, préservation de la nature.
Ah oui, oui, oui. Non, mais oui. Ça, c'est tout. C'est,
oui.
Et ça, c'est les épreuves. Mmh. Mais il y a quand même de la formation et tout, où on leur explique quand même tout ce qui est biodiversité. C'est pour ça qu'il y a un peu l'Office français de la biodiversité qui est là pour expliquer un peu le.
Oui, ça se fait en synergie. Oui, oui.
Ah oui, 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 c'est quand même. L'un ne va pas sans l'autre.
Ouais. Alors, on va partir sur l'expérience concrète. On en parlait en aparté, mais est-ce qu'on tire toujours à la chasse ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. On peut passer une journée, voire même un mois, ce qui m'est arrivé, sans tirer une seule balle, ou voilà, tout en voyant du gibier. Mais la sécurité fait que, il passe à un endroit où on ne peut pas se permettre de le tirer parce que c'est dangereux. Voilà. Et puis. Il faut quand même savoir ce qu'on tire. Voilà, donc, non, moi, cette année, j'ai tiré deux sangliers, c'est tout.
Oui, sur une année entière.
Sur une année entière.
Sur une saison, oui.
Sur une saison. Donc, non, il ne faut pas croire qu'on est des joueurs sandales. Hein.
Ouais. Et donc, il y a des acteurs de la prévention pour la nature. Et vous avez, je pense, des relations avec eux, notamment pour réguler les troupeaux, les choses comme ça. Il me semblait avoir entendu ça.
Oui, tout à fait. Tu as chaque année ce qu'ils appellent une réunion, surtout avec la fédération de chasse, sur le tir des chevreuils. Par rapport à chaque commune, ils leur donnent un pourcentage de chevreuils à tirer, donc avec, bien sûr, des bagues. Et tandis que sur le sanglier, comme il est classé nuisible, on n'a pas ce genre de choses. On va donner des bagues pour pouvoir tirer le nombre des sangliers.
D'accord. Donc, il y a un nombre prévu.
Au niveau chevreuil, oui. Voilà, au niveau sanglier, non.
Oui. Et c'est pour réguler la population, je crois.
Voilà, tout à fait. Pour éviter après les...
Est-ce que les chasseurs, ils donnent aussi des infos, parce qu'ils sont sur le terrain, donc ils pourraient aussi donner des infos
Disons qu'on fait remonter chaque année, tu as un carnet sur lequel tu dois mettre le gibier que tu as tué. Et sinon, après, tu fais toujours ce qu'on appelle un petit débriefing où tu dis, tiens, j'ai vu un chevreuil là, j'ai vu ça là, tu vois, voilà. On essaye quand même de connaître notre secteur et d'informer quand même pour savoir la quantité de gibier qu'on a sur le...
Donc il y a une synergie avec les...
Oui, tout à fait.
Avec quoi? Avec l'Office national des forêts?
Surtout avec la fédération.
Oui,
la biodiversité. La fédération, c'est quand même notre porte d'entrée.
Oui.
C'est avec eux qu'on travaille. Puisque on organise... par l'intermédiaire de la fédération, les dimanches à la chasse, où un dimanche, les gens qui veulent venir vont venir avec toi au poste pour tu vas leur expliquer. Sur le Péréon, nous, on a mis en place une journée découverte. C'est-à-dire qu'on prend les enfants des écoles, mais hors chasse, bien sûr, je précise. Et on va les emmener dans la forêt, leur faire voir les traces. Voilà, ça c'est un sanglier, ça c'est un chevreuil. Tu vois, l'arbre c'est ça c'est toi. Pour leur apprendre un peu tout ce qui est biodiversité et connaissance du monde animal.
Et je crois que des fois, je crois que j'avais vu ça, mais on en avait peut-être même déjà parlé. Parfois, il y a des appels des mairies parce qu'il y a un sanglier qui s'approche ou qui est dangereux.
C'est exceptionnel ça.
Oui.
Voilà, c'est que pendant la chasse, on va essayer quand ils nous disent de ce côté, on va aller chasser plus parce que ce qu'il faut éviter, on évite de chasser autour des maisons.
Bah oui, bien sûr.
Grosse priorité.
Vous faites aussi la chasse aux nuisibles, des battues.
Ah ben bien sûr, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans tout ça, mais je veux dire, à la fin de la saison, là, on va commencer à faire ce qu'on appelle le déterrage, tout ce qui est le renard, tout ce qui est nuisible, pour tout.
D'accord.
Aussi bien pour le monde animal chasseur que pour Monsieur Tout-le-Monde avec ses poules.
Oui. Donc vous parliez de sécurité tout à l'heure. Donc la question, évidemment, se pose. Est-ce qu'il y a eu dans votre secteur des accidents de chasse ou des incidents de chasse?
Non. On a la chance, je dirais, on va toucher du bois, mais on a la chance d'avoir une équipe dirigeante, on va dire, avec un président qui fait partie un peu de la fédération et qui axe. On a fait quand même une soirée avec l'intermédiaire de la fédération sur la mise en sécurité pendant la chasse. Et maintenant, chaque chasseur se doit de faire cette formation. Elle est valable 10 ans. Voilà. Les consignes, on a des consignes. On ne tire jamais dans la traque parce qu'il peut y avoir un traqueur. On tire.
C'est quoi la traque?
La traque, c'est une fois que tu as encerclé ton gibier, c'est l'intérieur où tu lâches tes chiens.
D'accord.
Et après, tu as l'extérieur. Donc, on attend que le gibier sorte à l'extérieur et on le tire, ce qu'on appelle, nous, en sécurité, pas en l'air, ni au rembucher, propre. On installe des miradors. Parce que grâce aux miradors, tu es en hauteur et tu peux tirer en fichier. Un tir fichant, tu vois, comme ça, au moins, c'est une sécurité.
Ouais.
Donc, voilà, on essaye de faire le maximum pour
la sécurité. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose de sécurité? Pas tirer sans visibilité?
Ah oui, voilà, c'est ça. Ben, la consigne, c'est ça arrive, on vérifie, on regarde le gibier, on voit ce que c'est. Si c'est bon, je tire. Si c'est pas bon, je tire pas. Si je suis en sécurité, je tire. Et à la fin, voilà. Mais c'est pour ça qu'on peut passer des journées à pas tirer parce que on n'a pas toutes les conditions requises pour pouvoir faire un tir en toute sécurité.
Les derniers exemples, donc on ne sait pas pourquoi quelqu'un, ou est-ce que c'est un affolement, est-ce que c'est une vengeance, on ne sait jamais dans le cas de les différents cas qui sont intervenus, on ne sait pas trop quelles sont les causes, les raisons de la mort de quelqu'un. Quoi.
Alors il faut savoir quand même qu'on a des armes de guerre. Hein. Oui, carabine, oui. C'est pas La balle, elle ne s'arrête pas dès qu'elle est sortie de la traque, elle ne s'arrête pas, elle continue. Hein. Donc je veux dire, si tout est sécurisé, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas à l'abri de l'imprévu. Je veux dire, on tire une balle, il y a une pierre, elle ricoche, elle part de l'autre côté.
Ouais.
Voilà, il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Si, on a beau prendre toutes les sécurités. Hein,
tout à fait. Voilà.
D'accord. Et il y a des actions qui sont menées avec les acteurs de prévention de la nature ou en commun?
Non.
Ou au niveau, peut-être au niveau de la fédération?
Peut-être au niveau de la fédération, il se fait peut-être des informations, mais là, je ne pourrais pas t'en parler, parce que je ne sais. Mais nous, je te dis, à part ces informations sur les enfants...
Oui, c'est bien ça.
Je pense que c'est eux qui vont tout amener plus tard. Donc, c'est là qu'il faut travailler.
Oui, sans devenir forcément chasseur. Enfin,
non.
C'est une découverte de la nature.
On ne fait pas ça dans le champ d'en faire des chasseurs.
Ah, oui.
On en fait ça pour qu'ils comprennent la nature. Et que, voilà. Et quand ils vont dans la nature, même pour eux, c'est positif.
Oui. Et on voit des résultats par rapport aux gens rencontrés. Est-ce que ça, cette action d'explication, etc., ça a des effets?
Ça a des effets, on va dire, oui et non. Je veux dire, l'enfant, c'est la parole de l'enfant, donc les grands écoutent. Mais c'est pas évident toujours de... Hein. C'est plus facile de parler à un enfant qu'à une grande personne, parce que l'enfant, il voit toute la beauté, lui.
Ouais.
Tandis que la grande personne, si elle n'aime pas la chasse, elle n'aime pas la chasse. Si elle n'aime pas autre chose, elle n'aime pas autre chose. Donc voilà, je veux dire, l'enfant, lui, on lui a pas mis des œillères pour l'instant, donc voilà.
Après, il ne faut pas tomber sur les chasseurs idiots... Et il y en aura toujours.
Mais
comme partout.
Je veux dire, c'est pour ça c'est un sujet que j'aime pas trop parler, parce que des bons chasseurs, il y en a, des mauvais, il y en a, des bons promeneurs, il y en a, des mauvais, il y en a. Il y a tout. Hein, faut faire avec. Hein, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein.
Bah, c'est bien pour ça qu'on voulait.
Et il faut essayer de bien machiner ensemble, bien discuter, pour que la mayonnaise prenne correctement.
Sans dévoiler le secret de la conférence prochaine, là, vous qui êtes chasseur, avez-vous vu le fameux lynx et loup en Beaujolais?
Sur le Beaujolais, moi, j'ai pas cette, on va dire, cette chance, parce que c'est du gibier qui se voit très 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 rarement. Hein. Mais j'ai vu des gens. Oui, il y a des gens qui m'ont dit que dans la vallée d'Azergues, ils avaient vu des lynx. Hein.
Ah ben on verra ça à la prochaine conférence. Merci Thierry Calvi.
De rien.
Rendez-vous le 6 mars donc à 16h à l'auditorium. Pour justement prolonger cette émission avec la conférence proposée par Marc Benoît et Florian Tanner, consacrée à la faune sauvage en Beaujolais, justement le loup et le lynx. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur notre page Facebook et notre site internet academy-villefranche.fr. Merci.
Merci à vous de m'avoir écouté.
Merci.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.